Mode d'emploi.
Bonsoir, vous êtes sur Fréquence Paris Pluriel 106.3, l'émission Mode d'emploi, l'émission des chômeurs et des précaires, avec ce soir des journalistes d'Attaque et des membres d'Attaque et des journalistes du PIAF.
Et nous recevons ce soir Filippo Furini de Migre Europe, anthropologue avec qui nous allons parler du drame de tous les gens qui essayent de rejoindre l'Europe.
Bonsoir.
Bonsoir, nous sommes donc le vendredi 11 septembre 2015 et c'est le 11 septembre, vous pensez peut-être à beaucoup de choses, mais moi quand je pense au 11 septembre, je pense surtout à la mort de Salvador Allende au Chili, n'est-ce pas Jean-Marc ?
Alors le 11 septembre 73, c'est une date qui nous fait froid dans le dos, c'est avec la complicité active des États-Unis, la mort de Salvador Allende et surtout la mort d'un système qui voulait un peu plus d'égalité dans un pays qui était très pauvre à l'époque, mais qui avait le malheur d'être riche de son cuivre, un cuivre qui intéressait les multinationales américaines, qui n'ont pas hésité à tuer, à mettre Pinochet en place, ce qui a provoqué donc une vague de torture, d'arrestation, de disparition, la mise en place d'un système international de torture et de disparition entre les dictatures d'Amérique du Sud, et aussi, chose qui nous rappelle tristement l'actualité fraîche, l'exil de dizaines de milliers de personnes à travers toute l'Amérique latine et vers l'Europe, déjà à l'époque, des pays qui avaient des attitudes très différentes avec les exilés, certains très accueillants, d'autres beaucoup moins.
Et tu voulais nous parler d'autres choses plus en actualité, plus exactement essayer de rebondir sur les mots de nos hommes politiques.
Alors oui, c'est quelque chose d'un petit peu agaçant ces dernières années, c'est de voir la manière dont les hommes politiques et les journalistes et tous les faiseurs d'opinion en général utilisent le langage et le déforment en utilisant un langage qui est de plus en plus imprécis volontairement, euphémique très souvent, souvent hypocrite. Et tout cela n'est pas innocent du tout, parce que derrière des mots qu'on utilise mal ou qu'on détourne, ça permet de masquer des réalités qui, elles, sont tout à fait crues. Alors, l'une des raisons de cette chronique, c'est aussi l'abus qu'on fait en ce moment du mot de migrant. Migrant qu'on utilise à la place de réfugié, parce que justement, le migrant, c'est quelque chose de vague. Ça couvre des réalités extrêmement diverses et surtout le mot migrant n'est pas associé à l'idée d'asile politique, alors que l'inconvénient du mot réfugié, qui est pourtant le bon, est associable à celui de réfugié politique, et donc c'est beaucoup plus gênant de refuser un réfugié que de refuser un migrant. Alors, je suis parti sur un certain nombre de petites phrases qu'on pourrait traduire entre la langue officielle et ce que ça veut dire vraiment. Alors, ne dites pas, par exemple, le chômage a encore monté ce mois-ci. C'est trop direct, ça fait mal. On dit le rythme de progression du chômage s'est ralenti. C'est beaucoup plus acceptable, ça fait beaucoup moins mal au cul. Deuxième exemple, on ne dit pas bombardement. C'est fini, on ne parle plus de bombardement, ça fait trop violent, c'est trop guerrier. Maintenant, on parle de frappe. Une frappe, c'est plus propre qu'un bombardement. C'est assez drôle de voir l'évolution du champ sémantique. Trois, alors toujours le bombardement, nous allons bombarder une ville. Ça fait inhumain, ça fait dégoûtant. Et aucun gouvernement ne peut dire « je vais bombarder une ville », ça se fait plus. On n'est plus à l'époque de la Seconde Guerre mondiale ou du Vietnam. Alors maintenant, on dit « nous allons pratiquer des frappes ciblées ». On cible les frappes. Sous-entendu, d'ailleurs, c'est assez drôle parce que, à force d'être imprécis et euphémique, si on fait des frappes ciblées et qu'on précise qu'elles sont ciblées, c'est-à-dire que de temps en temps, quand les frappes ne sont pas spécifiées ciblées, c'est-à-dire qu'on tire n'importe où. Donc c'est assez amusant dans la langue officielle. 4. Réfugiés de guerre. Alors, surtout si on est un peu responsable, c'est culpabilisant. C'est culpabilisant pour les dirigeants parce que s'ils ne prennent pas de décision, ça fait mauvais effet. Donc, on va dire migrants. C'est plus propre, c'est moins violent et ça n'engage à rien. 5. Alors là, je fais dans la nuance. Il ne faut pas dire « je suis un enculé, mais il y a pire ». Parce que ça pourrait choquer. Par contre, on peut dire « les États-Unis vont accueillir 10 000 migrants, mais tout de même, les Hongrois ne sont pas très solidaires ». Ça peut s'entendre. Par contre, la première phrase, c'est pas possible. Alors, j'en ai plus que deux, hein, je vais pas vous saouler toute la soirée. « Je préfère sauver une banque que de sauver des réfugiés ». Ça, on peut pas le dire. Par contre, si je, en tant que politique responsable, je dis la réalité budgétaire du pays ne nous permet pas de recueillir autant de migrants que nous le souhaiterions. Ça veut dire la même chose, mais ça, on peut l'entendre. Alors le dernier, je me suis fait plaisir quand même. J'en ai rien à carrer d'un petit Syrien noyé sur une plage. Trois petits points. Au fait, j'ai une nouvelle Rolex. Ça, c'est pas possible, ça ferait sarkozyste. Par contre, si je dis en tant qu'homme politique responsable, on ne peut pas rester indifférent devant cette image. C'est la même chose, mais c'est plus joli.
Ça nous laisse songeurs. On va finir par ne plus écouter les hommes politiques sans entendre ta douce voix nous donner la traduction simultanée. Alors, on va raconter une autre petite histoire qui est arrivée cet été. Enfin, plus exactement, elle remonte au 12 février dernier. C'est la fabuleuse histoire du destin des chaises. On en avait déjà parlé la dernière fois, mais là, nous allons écouter un petit reportage sur les rebondissements de cet été de l'emprunt, ou plutôt du vol, de chaises qui a été faite auprès des banques HSBC et autres.
Tout a commencé le 12 février à l'agence HSBC de Bayonne.
Les militants de Bizy réquisitionnent 8 chaises pour protester contre l'impunité dont bénéficie la banque, organisatrice d'évasion fiscale à grande échelle.
On nous dit qu'il n'y a pas d'argent. Et nous on dit, ben oui, l'argent il existe. L'argent de la transition écologique et sociale, il existe, il est dans les paradis fiscaux.
Ils remettent au directeur de l'agence un exemplaire du livre noir des banques, publié quelques jours auparavant par Attac et Basta.
Hasard heureux, cette publication avait coïncidé avec la révélation par Le Monde du scandale SwissLeaks.
Entre novembre 2006 et février 2007, pas moins de 180 milliards d'euros ont transité à Genève par les comptes HSBC de plus de 130 000 personnes physiques ou morales, dont plus de 3 000 Français.
Pour eux, plus de 20 000 sociétés offshore ont été créées dans les paradis fiscaux.
Juste après le forfait, Tchétché Tchévéri de Bizy appelle Attac pour un conseil technique. À combien estimer le préjudice subi par l'État français du fait des pratiques d'HSBC ?
Un rapide calcul permet de chiffrer la rançon qui sera demandée à la banque en échange de la restitution des chaises.
Environ 2,5 milliards d'euros. Mais la police entre en jeu et convoque les militants, tentant même de procéder à des prises d'ADN auprès de ces dangereux délinquants. Par solidarité, Attac propose à Bizy d'héberger temporairement les chaises détournées. Les Amis de la Terre, Solidaires Finances Publiques, se joignent rapidement aux gangs, ainsi que Patrick Vivray, Edgar Morin, Suzanne Georges, Claude Alfandéry, Alain Caillé.
Les investigations policières semblent soudainement ralentir.
À Bruxelles, le 18 février, une trentaine d'activistes se saisissent du mobilier dans une agence de BNP Paribas Fortis.
Le secteur bancaire dans son intégralité devrait passer sous contrôle de la population, devrait être socialisé sous contrôle des travailleurs et des usagers. Ouais.
À Paris, le samedi 7 mars, Attac passe à l'action.
Les militants prélèvent 5 chaises dans l'agence BNP Paribas du boulevard Voltaire. Il s'agissait de renforcer l'exigence adressée depuis un an à la banque dans le cadre de la campagne Requin afin qu'elle ferme ses 7 filiales aux îles Caïmans.
Vous nous faites un petit geste de soutien ?
Les chaises HSBC réapparaissent en avril dans la manifestation contre l'austérité.
Si on doit prendre une image un peu populaire, c'est le nain de jardin de la fin d'Amélie Poulain en fait. Et on va le faire tourner.
Dans un campement de son logis du DAL, place de la République, à la ferme à Paris de la Confédération Paysanne.
Rebelote le 21 avril. C'est au tour du collectif de désobéissance civile les Jedi for Climate de faire irruption dans une agence BNP du 12e arrondissement.
Fin mai, Attac restitue 2 chaises aux fonctionnaires du Centre des impôts de Saint-Sulpice à Paris afin de renforcer les moyens de leur lutte contre l'évasion fiscale. BNP Paribas a finalement porté plainte plus de 3 mois après la réquisition citoyenne des chaises.
Cette plainte pourrait déboucher sur un procès où la banque elle-même risque de se retrouver principale accusée.
Mais ne pas bouger aurait mis en danger son image, alors qu'Attac prévoit d'ores et déjà de multiplier les actions dès septembre en vue de la conférence des Nations Unies sur le changement climatique.
Et reculer, en l'occurrence quitter les îles Caïmans, aurait encouragé le pouvoir citoyen et stimulé les nouvelles exigences.
Au-delà du plaisir non négligeable de jouer David face à Goliath, les faucheurs de chaises posent avec vigueur le débat sur la responsabilité des banques dans la crise sociale et écologique. Lors de la prochaine crise financière, lorsqu'il faudra décider que faire d'un secteur bancaire à nouveau en faillite, les faucheurs de chaises pourraient bien apparaître comme les précurseurs d'une idée désormais incontournable.
Le contrôle citoyen des banques.
Pour répondre à cette menace grave et imminente du dérèglement climatique et de l'évasion fiscale, nous appelons les citoyens et les citoyennes à réquisitionner 196 chaises d'ici la COP21, dans les agences des banques les plus implantées dans les paradis fiscaux. Ces chaises serviront de support à une grande action symbolique en pleine COP21, afin d'inciter les citoyens du monde à entrer dans l'action. Nous appelons à mener ces actions au grand jour, à visage découvert, dans l'esprit de l'action non violente et de la désobéissance civile, en respectant les personnes tout en affichant notre détermination à faire changer cette situation d'injustice.
Alors l'injustice des banques par rapport à la société est évidemment présente, mais on va parler d'injustice bien plus grave, bien plus lourde en tout cas pour les hommes et les femmes qui essayent de rallier l'Europe en fuyant les drames, que ce soit des conflits, que ce soit la misère. Alors nous avons avec nous Filippo Furini, donc qui est anthropologue, qui est membre de Migre Europe, que nous avons reçu en février dernier, à une période où déjà la pression aux portes de l'Europe était forte en Méditerranée, et là, depuis quelques semaines, l'arrivée est massive.
Hein. Tout à fait.
Et cette arrivée massive, elle nous demande peut-être de nous reprendre un peu de recul historique. Hein. Quelles sont les grandes vagues d'immigration, peut-être quelques chiffres, pour qu'on essaye de se dire finalement, est-ce que d'autres crises, on en a peut-être eu aussi fortes, peut-être plus lentes, hein, moins massives sur une période donnée, mais des chiffres identiques, on les a connus.
Oui, bah, je vous propose un petit historique assez rapide pour ce qui concerne la France, même si je suis italien, peut-être on pourrait parler d'Italie aussi, mais pour ce qui est de la France, on commence de 1922-1924, environ 58 000 réfugiés arméniennes débarquent dans les ports de Marseille et ils s'abritent dans des camps un peu de fortune, bon, camp Odo, de Saint-Jérôme et Saint-Loup. Et après, ils essayent de se déplacer et rejoindre Paris ou la vallée du Rhône. En mars 1939, les nombres de réfugiés espagnols en France est estimé à 440 000 personnes dans un rapport officiel suite à la guerre, évidemment, en Espagne. On parlait d'Allende tout à l'heure. Eh bien, là, 5 000 réfugiés chiliennes sont arrivés en France entre 1974 et 1975. Et après, on a la crise de Boat People. Donc, la France a compté environ... Bon, là, j'ai une chiffre précise. 128 531 Vietnamiens, Cambodgiens et Laotiens sont entrés légalement en France pendant cette période à cause de cette crise. Alors, on peut voir que effectivement, le problème des réfugiés... c'est intéressant parce qu'en France, vous avez un mot qui est réfugié. En italien, on utilise le mot profugo, qui n'a pas la connotation juridique du mot réfugié dont tu parlais tout à l'heure. Donc ça permet de expliquer parfois mieux les choses. Je vous donne un chiffre qui concerne l'année 2010, parce que c'est intéressant, selon moi. C'est-à-dire qu'en 2010, il y avait plus de 15 millions de réfugiés dans le monde, dont 5 millions de réfugiés palestiniens. Les pays pauvres, pour les pays moins riches, si on veut utiliser un lexique convenable, accueillaient les 80% des réfugiés. C'est-à-dire que ça ne nous concerne pas autant. Hein. Le monde riche n'est pas aussi concerné qu'on croit. Ce qui est très intéressant, c'est en 2010, selon le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, les premiers pays à héberger des réfugiés, c'est le Pakistan avec 1 700 000 réfugiés. Le deuxième pays est l'Iran, 1,1 million. Et le troisième était, il faudrait vérifier les chiffres, mais la Syrie avait 1,05 million de réfugiés. Question qui s'enchaîne, c'est-à-dire où est-ce que les réfugiés qui étaient réfugiés en Syrie iront si effectivement l'Europe veut accueillir que les réfugiés syriens. Voilà. Je te repasse la parole.
Alors je vais la donner à Malika, qui va essayer de parler un peu plus poétiquement de tout ça.
Parmi nos poèmes, parce que c'est des poèmes que j'écris, mais que mon compagnon et moi nous écrivons, et comme l'histoire se répète, malheureusement, pas les bonnes choses on aurait aimé. Voilà un des poèmes. Bien qu'on parle de réfugiés, même on dit des réfugiés, pas réfugiés économiques, l'économie, elle a un lien avec la répression, sinon ils se trouveraient pas dans cette misère pour être obligés d'y aller chercher ailleurs pour nourrir leur famille. Elle a un point entre la répression et auquel l'autre se trouve privé de travail et qu'il est obligé d'y aller ailleurs. Enfin, je passe par le poème. Ibrahima a cette rage qui se lit sur le visage. Il n'a que 17 ans d'âge et pourtant, de son beau village. Il n'a que l'image, l'image d'une cage. Besoin d'être à la page, d'entreprendre le voyage. Et s'il le faut, à la nage pour aborder l'autre rivage. Pour aborder l'autre rivage. Blanche est ta page, l'Occident est ta mirage, lui prédit le mage. Je te vois enfermé dans une cage, mauvais, mauvais présage. Et pour ce long voyage, il ne prit pour bagage qu'une gypsière en bandoulière et un banjo plaqué au dos. Et un banjo plaqué au dos. Ibrahima est de la lignée des griots, celle qui polie les mots, pépite charriée par les flots, d'abord torrent, puis ruisseau, et enfin filet d'eau. L'écrin du joyau, l'épopée du Karamoko Alpha, le premier prince du Fouta, le guerrier au service du lettré, testament toujours d'actualité, puissent les dirigeants s'en inspirer. Il traversa la frontière et atterrit au détroit de Gibraltar. L'Andalousie, l'Andalousie, et le voilà à Paris, à Paris. La galère des sans-papiers, les rafles dans les foyers, en permanence aux aguets, oubliant qui il est. C'est dans les centres de rétention que tout lui revient, le Karamoko Alpha, le Fouta, sa promise Binta, la prédiction du mage, et la fin du voyage. Et la fin du voyage. Ibrahima n'a plus cette rage qui se lit sur le visage. Il n'a que 20 ans d'âge et pourtant, il a noirci tant et tant et tant de pages. Oh, toi qui as le projet de fuir ton pays, va en Guinée à la baie sur la place de la mosquée. Demande Ibrahima le griot, celui qui polie les mots, pépite charriée par les flots. D'abord torrent, puis ruisseau, et enfin, filet d'eau, l'écrin du joyau, l'épopée d'un jeune gamin africain qui voulait forcer le destin. Ses galères, ses traversées du continent, ses galères et déboires en Occident. Paradoxe d'une civilisation, abondance et exclusion, en fusion, merci.
Et merci à toi, Malika, pour le poème qui nous a replongé dans une ambiance d'immigration plus économique, plus africaine, alors que là, on parle plutôt d'une migration, enfin, de réfugiés venant de Syrie ou du Moyen-Orient. Et justement, le lieu où tout ce monde se retrouve, c'est la Méditerranée. Et tu étais en Méditerranée cet été, plus exactement sur une île grecque.
J'étais en Grèce, tout à fait. J'ai bougé un peu en Grèce. J'étais pas sur les îles, disons, d'arrivée, de première arrivée. J'ai passé du temps à Athènes. J'ai essayé de voir qu'est-ce qui s'est passé à Athènes et suivre un peu le passage de ces personnes vers le nord. Parce que assez rapidement, la voie s'est ouverte. Comment vous dire? Les personnes qui sont arrivées dans les îles d'Écosse, et Mytilène, genre sur la côte en face des Turquies, ont été assez rapidement, grâce à l'utilisation des bateaux, des ferries utilisés par les touristes. Donc il y a eu une petite révolte des compagnies qui ont dit non, on ne se prête pas, on ne veut pas se prêter à ça, on a d'autres choses à faire pendant l'été, voilà. Mais finalement, l'État est arrivé à les faire transiter par le Pirée. Ils ont installé quelques petits centres, camps, campements, on peut les appeler comme on veut, pour les héberger dans les Pirées et dans les alentours de Athènes. Mais aussi rapidement, ils ont commencé à les transporter vers la frontière de Skopje, donc dans la Macédoine. En Grèce, il ne faut pas dire Macédoine, parce que la Macédoine, c'est autre chose, donc Skopje. Et du coup, ils les ont mis face à la possibilité de transiter dans un autre pays, en sachant qu'ils ne s'arrêteraient pas en Macédoine et qu'ils continueraient leur voyage. Donc ça a été assez intéressant de voir comment cette crise liée à la guerre en Syrie, donc à cette émergence, moi je pense à l'émergence parce que il y a un an et demi, la France était censée accueillir 500 réfugiés syriens, et là il se trouve qu'elle parle de 24 000. Je veux dire, les chiffres ont monté de façon exponentielle, et il y a cette crise qui concerne bon, des droits humains, l'éthique de l'hospitalité, etc. Mais cette crise se croise avec la crise en Grèce et notamment les déséquilibres au niveau de pouvoir qui se rabattent, qui tombent aussi sur la question de la gestion de la migration. Raison pour laquelle les Grecs, ils ont un peu arrêté de ficher les migrants et les ont tout simplement invités à poursuivre leur voyage, en sachant que la destination n'était pas leur pays. Ils leur ont dit, bon, allez-y. Et ça a un peu déparié les cartes. Bon, ils ont un peu changé la dynamique. Ils ont accéléré, si vous voulez, l'urgence, à part pour ce qui est l'Union européenne, de gérer cette question de façon organique, de façon collective. Quoi.
Et donc, t'as vu la réalité tout cet été en Grèce, donc avec la fois peut-être la crise locale aussi économique qui a frappé des gens et qui voyait arriver des gens encore plus pauvres qu'eux.
On en a parlé beaucoup avec des amis, avec des gens qui travaillent plus ou moins dans le domaine, mais aussi avec des citoyens, des personnes, etc. J'ai essayé d'échanger pour ce que j'ai pu avec des migrants, donc des Syriens, mais d'autres migrants. Ce qui est intéressant, c'est que face à une position un peu froide de l'État, qui est quand même pris dans d'autres problèmes, donc il a du mal à gérer, nonobstant sa volonté exprimée de les aider. Vous avez la gestion policière, et donc il y a pas mal de cas, il y a des vidéos sur YouTube où la police de frontières grecque essaye de renverser des bateaux des migrants, donc il y a des cas assez... abominable, si vous voulez, de réaction policière, qui est imputable. Bon, normalement, les Grecs me disaient que c'est par rapport à la gestion locale, donc des îles, donc des commissariats, si vous voulez, qui gèrent l'accueil sur place. D'un autre côté, vous avez une population qui, et ça c'est la question qu'on a débattue, comprend et que essaye de d'aider pour ce qu'il peut. Moi, j'ai trouvé dans les rues d'Athènes Welcome Refugees à plusieurs reprises. Je sais qu'il y a des boulangers qui vont donner du pain. La première chose qu'ils font le matin, c'est ils vont leur donner du pain. C'est-à-dire qu'il y a une empathie, il y a un partage et une volonté de les aider, hein, sachant que c'est pas des personnes qui vont rester. Probablement, c'est ça aussi qui permet, qui ouvre cette question. Il y a une question sur l'hospitalité à personnes qui ne sont pas censées s'installer dans le pays. Donc la logique de l'hospitalité n'est pas exactement la logique de la migration classique, économique, comme on dit. Mais ça a permis ça a montré comment les gens effectivement sont sensibles à cette question et s'ils peuvent, ils interviennent. C'est une chose qu'on a retrouvée en Grèce, que j'ai retrouvée en Grèce, mais qu'on peut retrouver aussi ailleurs. L'exemple, c'est les 10 000 Islandais qui ont surpris un peu tout le monde en disant bon, l'Islande fait 300 000 personnes à peu près. Alors, je ne sais pas quel Syrien voudra aller en Islande, mais effectivement, ils ont dit, ben, nous, on est prêts à héberger des familles. Chacun de ces 10 000 est prêt à héberger des Syriens. Donc, ça déparie un peu les cartes. Ça montre comment il y a un discours politique, étatique, de contrôle, de gestion. Et à côté, il y a un discours d'hospitalité, de volonté d'aider. Voilà.
D'ailleurs, pour ceux qui se posent cette question, n'hésitez pas à rechercher sur Internet. Il existe autour du Secours Populaire, du Secours Catholique, mais aussi d'autres associations qui vous proposent de vous mettre en contact vous-même pour l'hébergement de personnes réfugiées en France. Ces sites fonctionnent parfois avec assez d'humour en mettant une sorte d'interface qui rappelle les R&B ou Couchsurfing. Accueillez des réfugiés chez vous, vous verrez, c'est sympa. Et en tout cas, ça permet d'avoir vraiment cet esprit de partage que les Islandais ou quelques Grecs qu'on vient de citer ont réussi à amener naturellement.
Sinon, il y a l'esprit de partage version les Républicains, c'est-à-dire partagé, mais en fonction de la religion.
Oui, c'est une autre
paire. Non, en parlant de ça, j'étais touchée. C'est un rabbin, j'ai entendu légèrement à la radio un rabbin qui a essayé de dire de balayer les peurs et de comparer, c'était bien que ça soit dans la bouche d'un rabbin que d'un autre, de comparer par rapport à l'histoire à l'époque d'Hitler où les gens, quand ils fuyaient, et leur difficulté d'être reçus, c'est-à-dire avec la folie inhumaine à l'époque d'Hitler. Et de dire, c'est-à-dire qu'il a fait cette comparaison où les gens étaient obligés de fuir et de ne pas trouver des portes ouvertes, etc. Et j'ai aimé que ça soit un rabbin qui a dit ça parce que c'est important que sinon ça aurait été mal interprété si c'était dit par une autre personne. Mm-hmm. C'est-à-dire comme quoi l'histoire se répète, même si les causes paraissent... Pour moi, quand j'ai vu la première fois quand Bush a décidé de faire la guerre, soi-disant pour protéger les Irakiens, j'ai vu que c'était une folie, c'est une porte ouverte à d'autres folies inhumaines qui sont malades et qui ont des tas de problèmes et qui vont exploiter parce qu'on est arabe, qu'on a attaqué, qu'on n'attaque pas l'autre, etc. Et on a ouvert la porte à un microbe où on ne trouve même pas, ça n'existe pas un antibiotique pour balayer ces microbes qui s'installent dans la tête de certains et que d'autres par peur. Mais j'ai remarqué, par exemple, moi j'offre des poèmes, mais c'est ici à Paris. J'ai eu une expérience, plein de lieux qu'on m'ouvre la porte parce qu'ils savent que je demande ni argent ni rien, parce que je trouve que nous avons un des meilleurs moyens qui nous aide à entraver les naissances des armes qui tuent pour que la vie soit. J'ai pas dit que l'art et la culture, mais entre autres, oui. Ils sont là pour abattre les murs, ouvrir les portes, installer les fenêtres. Et pas mal de lieux publics, surtout que je demande pas d'argent et j'oblige pas les gens à dire oui. Comme ils me connaissent, ils me laissent. Et là, il y a 3 jours, j'étais agressée dans un café alors que je parlais au public. Je leur dis, vous n'avez pas le droit de me dire oui si vous pensez non. Je veux juste vous offrir un poème. Et ils étaient traumatisés. Ils ne parlaient pas par la peur du propriétaire du café auquel son vigile, qui je lui dis, mais vous êtes un esclave, quoi. Il me prend, il me serre pour me tirer vers le métro. Je m'assois par terre. Le chef ramène de l'eau et j'essayais de bouger. Par la voix, je dis, vous n'êtes pas sous tutelle. Si je vous ai imposé, je vous ai demandé, si vous trouvez que c'est injuste, informez-moi, mais éclairez-les. Et j'ai remarqué, il y a cette peur qui s'installe chez certains, en tous les cas, ce que j'ai vécu il y a 2 jours. Et j'ai commencé à écrire, au secours, il y avait 2 filles africaines qui sont venues après parler. Mais sinon, le public, il paraissait gentil. C'était rare, mais il ne bougeait pas. Et l'homme me tirait partout. Et les 2 hommes qui ramenaient de l'eau pour me verser sur moi. Et c'est que c'est là où j'ai pensé au fascisme et aux portes ouvertes par nos peurs. Quelle est la part de notre responsabilité en laissant le petit microbe qui s'installe au nom de l'argent pour que après nous sommes obligés de fuir nos maisons, etc.
Eh bien, justement, nous allons écouter un groupe qui passe d'ailleurs à la fête de l'UMA ce soir. Si vous écoutez la radio, c'est que vous n'y êtes pas. C'est Les Vents Passent, J'ai quitté mon pays.
Fréquence Paris Pluriel 106.3, l'émission Mode d'emploi, l'émission des chômeurs et des précaires, avec ce soir des militants de l'attaque et des journalistes du PIAF.
Et nous recevons un anthropologue, membre de Migre Europe, Filippo Furini, qui nous parle déjà depuis un moment de tout ce thème du drame des gens qui essayent de venir en Europe en passant à travers les frontières, à travers les mers, en mourant en trajet, et justement qui sont parfois accueillis. Et on va parler d'un exemple d'un pays où justement les tensions se retrouvent sur le même territoire, c'est l'Espagne, où il y a d'un côté des gens qui accueillent et des gens qui repoussent.
Disons que face à ce qui se passe à Ceuta et Melilla, ça a été assez intéressant de voir les villes espagnoles, les capitales si vous voulez, Barcelone et Madrid, faire appel à la notion de ville-refuge, qui, entre parenthèses, est le sujet de ma thèse, de ma thèse, voilà, dont j'y travaille depuis un moment. Et c'est intéressant de voir comment l'appel se fait à partir des municipalités. C'est-à-dire que ce n'est pas une question qui est laissée au gouvernement et à les négociations entre pays européens, mais c'est effectivement les villes, les municipalités qui invoquent cette droit, hein, cette volonté de prendre en charge de façon de gérer, de pouvoir gérer des dynamiques de hospitalité, d'accueil envers des populations qui sont dans les besoins. Donc c'est quelque chose qui est assez intéressant vu ce qui se passe en général en Europe. Il y a un autre exemple, si vous voulez, la ville d'Eriac, c'est un petit village dans les Calabries, qui depuis des années, qui est très loin, pas très loin de Rosarno, où il y a eu la crise, au contraire, des migrants, des travailleurs saisonniers. Et par rapport à ce qui se passe, parce qu'il faut, genre, là, la crise grecque et syrienne ne doit pas nous faire oublier qu'il y a encore des gens qui continuent à passer de Libye, des Tunisies, etc., vers l'Italie. Donc ça continue, ça s'arrête pas. Et faut se rappeler de ça. Ben, une ville comme Riace, c'est une toute petite ville, depuis quelques années, pratique une forme de accueil des migrants, des soi-disant clandestins, des personnes en situation irrégulière, sans papier, etc., et qui essayent de les accueillir. Voilà. Donc il y a des cas assez éparpillés en Europe de bonnes pratiques au niveau local. Face à ça, il y a tout, au contraire, une tension assez importante qui est en train de se montrer entre les pays européens qui doivent décider de comment gérer cette crise. Et il y a plusieurs points qui sont au centre de la discussion. Un, c'est effectivement les règlements de Dublin 3. On est passé au Dublin 3. Dublin, c'est, pour qui le sait pas, c'est ces règlements qui imposent que les migrants soient fichés, les migrants soient fichés dans les premiers pays où ils arrivent, pour que effectivement ils soient pris en charge là-bas. Alors que ce qui s'est passé dernièrement en Grèce et après en Macédoine et en Serbie, etc., c'était justement que non, on les a pas fichés pour les laisser poursuivre. Donc, ce qu'on demande, les pays soi-disant accueillants comme l'Allemagne, la France, l'Angleterre aussi, demandent que en Grèce, en Italie, en Espagne, on construise des hotspots, c'est-à-dire des centres d'identification où on peut ficher les personnes et déterminer si ces personnes sont des personnes qui vont rentrer dans la case des réfugiés, si c'est d'autres personnes qui seront des demandeurs d'asile pour d'autres raisons, ou si c'est des migrants supposés économiques, ou c'est des personnes qui n'ont pas le droit, c'est des faux demandeurs d'asile, comme on dit, et du coup, c'est des personnes qui n'auront pas les droits de rentrer en Europe. Après ça, il y a toute la question de la redistribution, où on va les mettre, qui veut les accepter. Bon, les pays disent non, moi je veux pas. L'Allemagne se montre très très ouverte, mais probablement. Bon, une question, c'est pourquoi l'Allemagne est aussi ouverte, tandis que d'autres pays le sont moins. Voilà. Donc il y a une série de problèmes qui se posent dans l'évolution des négociations internes à l'Union européenne pour déterminer une stratégie qui devrait être commune de approche et de résolution de cette crise. Autre question qui est collatérale, on l'a abordé avant de commencer, c'était pourquoi maintenant? C'est-à-dire pourquoi la Turquie, depuis 2 ans, accueillait environ 2 millions de Syriens, et pourquoi c'est cet été que les Turcs, parce que probablement il y a aussi une volonté de l'État turc, ont laissé partir ces personnes qui se sont évidemment reversées en Grèce pour essayer d'atteindre l'Europe. Donc ça, c'est une question, et c'est des questions que moi je vous propose. J'ai pas beaucoup de réponses ce soir.
Alors moi, je n'ai pas la science infuse, mais j'ai peut-être des pistes. Je pense qu'il y a peut-être la situation politique d'Erdogan qui relance sa salière contre les Kurdes et qui a donc besoin d'un paravent, et que les Européens lui fichent la paix alors qu'il faisait pression sur lui pour qu'il arrête son double jeu de laisser passer les terroristes vers lui et réciproquement, et d'aider sans doute en sous-main l'État islamique. Donc ça permet de fermer leur bouche aux Européens avec un chantage aux réfugiés. Et puis l'autre chose, c'est qu'il y a peut-être toujours de la part d'Erdogan la volonté de liquider une partie des Kurdes syriens en les envoyant en Europe. Parce que les Kurdes syriens pourraient devenir des alliés de poids d'une rébellion kurde.
Mais disons turque. Que. C'est, tout à l'heure, je pensais, effectivement, j'évoquais ces données de 2010. Un million de réfugiés en Syrie, soit avant que la crise explose en Syrie, il y avait un million de réfugiés en Syrie. Et où est-ce que ces réfugiés vont aller, vu que nous, on veut accepter que les Syriens? Est-ce que ces millions environ, bon, il y aura sûrement des Palestiniens, etc., mais il y a aussi probablement des Kurdes irakiens qui se sont retrouvés en Syrie, et du coup, qui passent en Turquie, et bien évidemment, il n'en veut pas. Voilà.
Alors, tu posais une autre question, c'est pourquoi certains pays sont plus à même d'accueillir que d'autres? Alors, évidemment, on peut imaginer que certains sont... on va dire une tradition peut-être historique d'accueil, mais il y a peut-être aussi des raisons, non? Quand on dit que l'Allemagne ouvre ses frontières, c'est peut-être finalement qu'elle en a besoin.
Tout à fait. Ben, c'est assez évident. On le sait que l'Allemagne a besoin de renouveler sa population. C'est plutôt évident. Ben, c'est d'accueillir des personnes qui seront dans un régime de limitation des droits, parce qu'un demandeur d'asile, un réfugié, c'est une personne qui de toute façon n'est pas citoyen, donc n'a pas accès à la panoplie des droits de la citoyenneté, ben c'est peut-être plus rentable de devoir accueillir de travailleurs et les mettre de les gérer des façons selon des lois des travails autres, quoi. C'est des suppositions, je ne veux pas non plus faire de la des diatrologies, mais c'est possible d'imaginer que l'Allemagne soit aussi contente d'accueillir des personnes qui seront obligées un peu à faire n'importe quoi comme travail, parce qu'en étant dans une situation de détresse, ils seront facilement employables et probablement facilement exploitables.
Il y a une notion qu'on pourrait peut-être développer. Là, tu parles de ces villes-refuges, donc qui font fi de tout ce qu'on peut dire au niveau du gouvernement pour agir au niveau de la commune. Mais ça prend quelle forme quand ils accueillent en Espagne en tant que villes-refuges?
Là, c'est une proposition, donc il faudrait étudier un peu le dossier. Moi, je peux parler d'Eriach, je peux parler d'autres villes. Il y a une autre ville assez sympa qui est qui s'appelle Marina Leda, qui est entre Granada, dans le sud de l'Espagne, qui, depuis des années aussi, accueillit des migrants, des étrangers, voilà, qui sont préjugés par rapport à leur situation administrative, et qui les insèrent dans une vie, dans un quotidien du village tout à fait normal. C'est des pays qui ont probablement besoin de populations, de travailleurs, donc il y a une façon aussi comment dire, il y a un échange réciproque probablement, mais c'est des personnes qui sont accueillies et qui peuvent tranquillement s'installer dans des situations où ils sont pas démunis, où ils sont pas marginalisés, où ils sont pas tout de suite catégorisés et gérés comme un surplus humain, quoi. Voilà. Mmh. C'est un peu ça, la question des réfugiés, c'est de produire une humanité qui reste un peu marginale, quoi.
À l'opposé de ça, en Europe, il y a quand même un discours qui est sacrément dégoûtant. C'est un certain nombre d'États ou d'hommes politiques à titre individuel qui essayent de faire un parallèle entre réfugiés et terroristes et de faire croire que parmi les réfugiés, il va y avoir une masse de terroristes qui vont s'infiltrer en Europe, alors que c'est profondément abject et absurde, puisque la plupart sont des réfugiés justement du régime d'Assad ou des exactions de l'EI. Et en plus, les terroristes n'ont jamais eu besoin de mouvements de population pour se déplacer, ils y arrivent très bien, et la plupart des terroristes qui ont agi en Europe de toute façon avaient des cartes d'identité européennes, donc il n'y a pas besoin de réfugiés syriens. Et ça, c'est une histoire qui circule beaucoup sur internet, un pseudo-maire du sud de la France l'a même utilisé dans son journal municipal pour faire peur à sa propre population.
Alors, d'autres tristes cires, il y a par exemple un évêque en Hongrie, un cardinal même, qui essaye de justifier qu'on ne doit pas accueillir n'importe qui, n'importe comment. C'est quand même un petit peu contradictoire avec la théorie chrétienne, en tout cas. Et justement, on va écouter le groupe Lénine Renault, dont son grand album « Mettez fossiles devient marteau ». Alors, Lénine Renault passe bien à la fête de l'Huma, contrairement au Vampas, j'ai dit une bêtise tout à l'heure. Et on va écouter de leur part « Le visage de Dieu ».
Vous êtes sur Fréquence Paris Pluriel 106.3, l'émission Mode d'emploi, émission des chômeurs et des précaires, avec des militants de Attac et des journalistes du PIAF.
Et nous écoutons un autre poème de Malika, Le jour où Bagdad est tombé.
Le jour où Bagdad est tombé, je n'avais pas le cœur à chanter, je n'avais pas le cœur à pleurer. Aragon, sur ta tombe, je me suis incliné et murmuré avec emphase ta phrase, le jour où Grenade est tombée avec la même sonorité qui t'avait intrigué. J'ai cru entendre, mais l'ai-je vraiment entendu? Elsa, Elsa, plusieurs fois répété, à triolé. Merci. Peux-tu revivre aujourd'hui, toi qui as permis au maître et à un apprenti dans l'autre culture de voyager? Dans l'autre culture de voyager. Le jour où Bagdad est tombé et le jour où Grenade est tombée, ces deux phrases n'ont-elles pas la même sonorité? Aragon, Aragon, tu n'as point été remplacé. Aujourd'hui, des nouveaux philosophes se sont installés. Une chapelle leur est même consacrée. Bouabdil Achouabi a livré la ville. Il a fui de nuit, s'attirant les sarcasmes que l'on sait. La fin d'une épopée connue, qui quelques siècles plus tôt de Bagdad a privé, le dernier d'une dynastie fuyant Abride abattu à travers la Mésopotamie, par miracle et à l'agonie, par miracle et à l'agonie, a atterri en Andalousie. La leçon est retenue, la tolérance et la liberté de croyance ont suffi pour que Bagdad par Grenade soit tombé. Le jour où Grenade est tombé, hôpital, université, la raison et l'émotion, l'Orient et l'Occident en ce temps étaient tous amants, la vie des sages et des saints universalisée. Le jour où Bagdad est tombé, musée saccagé, opillard livré, inspire ceci, la civilisation de la communication et du profit, la dernière envie, et la civilisation de l'alphabet et de l'écrit, la première connue dans une guerre se sont confrontées. Puissent les peuples se parler, ils ont tant à échanger, tant à partager. Ô Abraham, tu es le voisin et le témoin, aujourd'hui ton fils aurait été sacrifié, l'agneau a soudain disparu, les textes sacrés à peine murmurés. Des slogans, ce qu'ils ont retenu, ces nouveaux dévots autoproclamés. Le buisson ardent a été consumé. Oui, j'ai entendu, avec la certitude du rêveur éveillé, Elsa, Elsa, une dernière fois, répété, à trioler, merci. Je me souviens d'un autre mort, être obligé de fuir, de quitter Grenade cette fois-ci. Il a épousé une reine indienne, elle-même métissée, un fruit aîné, la laideur du corps et la beauté de l'esprit, la toile dans le paradis qui croupit en Andalousie, et l'enfer dans le miroir qui réfléchit, de Calcutta à Bombay, quel est le bon côté, toi, la franchie. Oui, j'ai entendu avec la certitude du rêveur, éveillé, Elsa une dernière fois, répété. Et que dire de l'Hallaj, le Bagdadi, le maître soufi, quand Bagdad lui ôta la vie. Faut-il redonner vie à la litanie de son dernier cri? Ils m'ont pas tué, ils m'ont ressuscité. C'est en souriant que j'ai étreint le bien-aimé. Le concept de l'individualité est mon crime de lèse-majesté. Les gardiens de la communauté m'ont démembré et dans le Tigre et l'Euphrate m'ont éparpillé. À l'embouchure, j'étais unité avec la seule divinité. Qui peut-il l'idée se passer de la totalité? Toi qui veux rêver, me dites ceci, roue et rayon, rayon et roue, ce qui les lie, tout cycliste le sait, lance donc la ronde, mesure les ondes, as-tu la sonde? L'invisible et le visible se sont vus, le temps d'une envie, rêve en paix. El-Hallaj, Aragon et Rochdi ne se sont hélas pas croisés le long de ce récit. Pour statuer, fallait-il pleurer? Fallait-il chanter le jour où Bagdad est tombé? Fallait-il pleurer? Fallait-il chanter?
Et on te remercie. On va terminer sur une petite chronique dans le temps qui reste sur l'université et l'argent université. On pourrait l'intituler « Moins d'argent, moins de postes, moins d'idées ». Alors, ça part d'un constat du Sénat qui est en train d'analyser le prochain plan de finances, le prochain budget, comme tous les automnes, et qui essaye d'analyser celui de l'an dernier à travers, entre autres, sa commission recherche et enseignement supérieur. Ainsi, les sénateurs se sont penchés sur les chiffres et en se rappelant de la promesse qui a été faite en février dernier, c'était en février 2014 par Hollande, de sanctuariser les crédits de la recherche française. Or, le budget a été, toutes ces promesses ont été balayées quelques mois plus tard. Le budget d'origine, voté il y a un an aujourd'hui, avait une augmentation de 1,8%. Ça suivait la promesse officielle du président. Mais les annulations successives en cours d'année conduisent à une baisse de 2% des crédits de recherche par rapport à 2013. C'est plus alarmant et plus intriguant encore. Des crédits qui avaient été votés par le Parlement dans la loi de finances initiale n'ont finalement pas été mis en disponibilité pour les gestionnaires qui avaient ainsi à budgéter sur un an et qui finalement n'ont pas eu les crédits. Une analyse du Sénat prouve que les crédits consommés sont inférieurs de 4,5% de la loi de finances initiale. Alors cette démarche est déjà loin d'anecdotique pour ce manque de finances pour les établissements de recherche, mais c'est aussi un déni total de démocratie. Les fonds prévus par le Parlement n'ont pas été mis en place par le gouvernement. Pardon, les fonds votés par le Parlement n'ont pas été mis en place par le gouvernement. Or, le gouvernement est censé respecter la loi votée par les représentants de l'Assemblée nationale. Alors, on pourrait comme ça citer d'autres exemples qui aujourd'hui grèvent les budgets, soit des fonds de recherche, soit des universités elles-mêmes. Par exemple, l'autonomie des universités qui brouille totalement l'analyse budgétaire. On se rend compte qu'à chaque fois qu'il y a une petite promesse d'un gouvernement de remettre un peu d'argent, par exemple il y a eu une promesse il y a quelques années de 1000 postes à l'université, la réalité c'est que toutes ces sommes sont vite mélangées, englouties dans la gestion quotidienne des universités. On se retrouve aujourd'hui avec plus de postes, des docteurs brillants qui n'ont même pas la possibilité de se présenter, des campus qui croulent sur le vertusté. Il y a eu une grève à Paris Sud ce printemps, mais personne n'emboîtait le pas parce qu'une autre réalité de l'université, c'est d'être aujourd'hui disparate. C'est-à-dire que certaines universités s'en sortent mieux que d'autres, pour des raisons diverses, entre autres parce qu'elles ont un campus en bon état, quand d'autres doivent alimenter les budgets de réparation. On connaît des facs où il fait 16 degrés dans les amphis, pour faire court, c'est quand même pas évident. Où la précarité est forte pour le personnel. Et pourtant, je veux conclure là-dessus, il y a une analyse qui a été faite il y a deux ans sur la période 2000-2010 au Canada qui prouvait que, évidemment, c'est quand il y a un peu d'argent, pas forcément beaucoup, mais un peu bien réparti sur l'ensemble des établissements de recherche, qu'on produit le mieux. Alors que le gouvernement passe son temps à dire, enfin les gouvernements depuis une dizaine d'années, en France et dans le monde, qu'on pense à dire qu'il vaut mieux aller financer quelques laboratoires, avec le peu d'argent qui reste, pour avoir la meilleure des productions.
Mais quand j'entends le mot culture, je sors mon revolver.
Oui, culture ou recherche. En tout cas, il est à noter que tous ces établissements n'ont plus du tout les financements récurrents qu'ils peuvent avoir. Alors, la recherche universitaire vend mal, vous me direz, comme tout le monde en ce moment, mais espérons que toute cette casse soit réparable le jour où tout ira mieux. Alors, on termine là par l'agenda à toute vitesse, en partant par Gaël.
Oui, le samedi 12 septembre, les Amis du Monde Diplomatique et Amnesty International organisent avec le journaliste Jean Stern une conférence sur le thème « Quelle protection pour les lanceurs d'alerte ?» Et pour une fois, c'est à Versailles, donc à 17h.
Alors, changeons le système, pas le climat, rencontre débat sur les enjeux de la COP21 avec Christophe Aguiton, membre du Conseil scientifique d'attaque, jeudi 17 septembre 2015 à 19h30, maison des associations du 12e, 180 avenue Daumesnil, Paris 12e.
Howl Zinn, une histoire populaire américaine, du pain et des roses. Un film de Daniel Mermet et Olivier Azam. La projection sera suivie d'un débat avec le réalisateur dimanche 20 septembre à 16h dans les bars-restaurants Les Lieux Dits, 6 rue Sorbier, Paris 20e.
La CIMAD organise une soirée sur son histoire avec Daniel Locate, Christian Delorme, le curé des Minguettes ou Jean Costil, le lundi 21 septembre 2015 à 19h à la Bourse de Travail de Paris. Plus de renseignements sur lacimad.org.
Mais où est passé Robin Desbois ? Conférence désarticulée de Fred Dubonnet. Le comité d'attaque Paris Centre présente une conférence désarticulée de Fred Dubonnet. On nous parle toujours du moral des ménages, mais le moral des ménages, il est en est où, hein? En tous les cas, le vendredi 9 octobre à 20h, maison des associations du 3e arrondissement, qui se trouve 5 rue Perret.
Alternatiba Paris organise le Village des Alternatives, un grand festival de solutions sur le climat, 26 et 27 septembre 2015, place de la République à Paris. Grand événement citoyen. Pour plus d'enseignements, tapez Alternatiba sur le web.
Le mardi 29 septembre à 18h30, Frédéric Lordon présentera son livre Imperium, structure et affect des corps politiques à la librairie de Paris, 7 plage de Clichy, dans le 17e.
Débat autour du livre « Tout peut changer » de Naomi Klein. Après lecture faite antérieurement par les participants du livre de Naomi Klein, échanges, débats porteront sur la première partie du livre. Donc cela aura lieu donc mercredi 30 septembre 2015 à 19h, café associatif La Commune, 3 rue d'Aligre, dans le cadre de la préparation de la COP21.
Et voilà, c'était la mission mode d'emploi avec aujourd'hui les animateurs issus du PIAF et de l'association ATTAC. Et nous recevions Filippo Furini de Migre Europe, anthropologue, et Malika qui nous a récité ses beaux poèmes. Nous remercions évidemment les présents, Gaël, Jean-Marc, Filippo, Malika et Claude à la technique. On termine avec un groupe qui s'appelle Racine de Swing qui passe en ce moment même à l'UMA, à Jazz UMA, Savoir Vivre.